c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.
Chut, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente.
Chut, on écoute la télé avec l'Angélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arômes, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glacés artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et l'Angélis, c'est maintenant 3 boutiques à Royan, Paris et Bordeaux.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Comme chaque lundi à 13h et mardi à 19h, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude, votre radio en Charente. Pendant une heure, on va passer en revue toute l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors détendez-vous, on s'occupe du reste. Voici tout de suite le sommaire de cette semaine.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio.
Et au sommaire de cette nouvelle émission Hebdo de Chute, on écoute la télé. Aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir de consacrer une large partie de cette émission à ce projet fou et hors du commun. Réaliser un film en un plan séquence d'une heure et demie, c'est l'équipe d'Année 20 qui a relevé le défi. Noémie Schmitt, Joris Savodo et toute l'équipe d'Année 20 seront avec nous dans une poignée de secondes. Nous aurons également le plaisir de parler du film Le médecin imaginaire. Ahmed Hamidi, le réalisateur, sera avec nous en fin d'émission pour nous parler de ce film avec notamment Alban Ivanov. On va bien rigoler. Barbara Cabrita sera à l'affiche de Poulet Grillé, la fiction de France 3, demain soir. Elle sera notre invitée pour en parler. Et puis il est à l'affiche du documentaire Nouvelle Graine ce soir sur France 5, Nicolas Mérieux. L'humoriste et comédien et animateur sera donc en ligne avec nous pour nous parler de son documentaire et de son changement de vie par la même occasion. Et en plus, ce documentaire qui a été primé au Festival de Luchon. On parlera également avec Julie Gaillet d'Une mère parfaite, la fiction événement qui sera diffusé dès jeudi sur TF1 à 21h10. Mais juste avant, nous voulions rendre hommage à une dame du cinéma que l'on a eu la chance de connaître au Festival de l'Alpe d'Huez. Elle s'appelait Marianne Garcia. Elle a joué dans Les Invisibles. Louis-Julien Petit l'avait découvert. Elle a ensuite enchaîné les rôles à la vitesse de l'éclair pendant plusieurs années, malgré un cancer récalcitrant. Marianne Garcia, c'était la joie, la bonne humeur, la soif de vivre incarnée. On avait eu l'occasion de la recevoir ici dans notre région pour des avant-premières du film Mine de rien avec Mathias Mécluse. Un souvenir impérissable et franchement on est très triste aujourd'hui d'avoir appris sa disparition la semaine dernière. Marianne, on t'embrasse.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
C'est notre spécial année 20. Aujourd'hui, notre coup de cœur ciné, ça sort mercredi dans les salles. Elle est au taquet, je peux vous le dire. Et oui, c'est une habituée de l'émission que nous accueillons aujourd'hui, Noémie Schmitt. Bonjour, chère Noémie.
Bonjour, comment ça va?
Ça va très très bien. Écoute, je vois que t'es au taquet. Franchement, année 20, c'est une véritable bulle de bonheur. Ça aurait pu s'appeler résurrection ou alors retour à la vie, moi je dis. Non, mais c'est vrai, ça fait du bien. On va en parler avec tout le reste de l'équipe. Mais tu es pas venue toute seule.
Non.
Tu es venue avec Lila.
Oui, Lila Poulet-Berenfeld, qui est une actrice du film, qui est aussi mon amie. Lila, tu veux dire bonjour?
Bonjour.
Ça va Lila?
Ça va et vous?
Pas trop stressée?
Non, ça va.
Bon, bah alors c'est parfait, t'as vu, elle est déjà au taquet. Et alors après, vas-y.
Et alors je suis avec Léo Poulet, qui est aussi son papa et qui joue aussi dans le film. Voilà, Léo, tu veux dire bonjour?
Salut.
Merci d'être avec nous, Léo. Alors, juste après, on aura toute une partie du reste de l'équipe qui va venir, Margot Bonin, on aura Joris, également ton co-scénariste, avec Elisabeth Vogler aussi, il y aura du beau monde, François De Brouwer, enfin voilà, on parlera, évidemment, on va continuer à parler du film, on va vous consacrer toute une partie de cette émission. Ce que j'ai aimé avant tout, moi, quand j'ai vu la première fois, c'est que c'est un projet artistique, non seulement abouti, mais surtout hyper original. Et ça fait du bien de voir des choses originales au cinéma, c'est-à-dire de voir des choses qu'on n'a jamais vues. C'est-à-dire que là, on te prend, dès le début du film, et on te lâche pas pendant 90 minutes. Pendant 90 minutes, on suit la caméra à travers tous les personnages que l'on croise dans la rue, comme ça. Qui a eu cette idée complètement dingue, Noémie?
Alors, c'est une idée qui a germé de la collectivité qu'on représentait. Donc, en fait, c'est mon coloc François Marc, qui est aussi un des co-scénaristes du film, qui lui n'a rien à voir avec le cinéma. Il est décorateur, il est peintre, et c'est un grand bricolo. Et ce mec est allé voir Slacker, le film de Richard Linklater, au cinéma, qui est une déambulation dans Austin, au Texas, qui date des années 90, et qui nous a vraiment mais subjugués. On a adoré ce film, toute l'équipe, et on s'est dit, mais c'est fou, c'est trop, ce serait trop bien de faire ça dans Paris, dans le Paris d'aujourd'hui, au milieu des gens qu'on aime, et qu'on trouve talentueux, qui nous ressemblent, et avec qui on partage des idées, des pensées et de l'amour. Et ce serait génial de le faire, enfin, en une respiration, quoi. D'avoir cette espèce d'effet aussi de, on lâche jamais. Le côté plan séquence, nous, ce qui nous fait kiffer, ça fait des années que Joris, c'est d'ailleurs avec le collectif, avec Léo, avec Lila, sont penchés sur cette question du plan séquence. C'est que c'est du direct. C'est un peu comme une émission de radio qu'on ferait en direct. On monte pas. Il n'y a pas de triche, en fait. Et c'est plus, ça se rapproche plus du théâtre presque que du cinéma, donc de la performance théâtrale. Et c'est ça qui nous a trop saucé, c'est de se mettre tous dans cette énergie, tous les acteurs et les actrices, de se mettre dans cette énergie de théâtre et de, on est obligé de compter les uns sur les autres. Techniciens, techniciennes, acteurs, actrices, faut tous qu'on aille au bout de cette prise. Cette prise, c'est le film. Donc, allez, c'est parti, tous ensemble. Voilà.
Et c'est ça qui est assez, assez dingue, c'est que vous apparaissez à peu près tous 10 minutes à peu près, mais alors, pendant 10 minutes, ça parle, il y a une tirade dingue. Et alors là, faut pas se tromper, c'est ce que, alors moi, c'est vraiment ça que j'allais comparer justement à une pièce de théâtre. C'est bien que tu l'aies dit juste avant moi, parce que j'allais comparer ça à une pièce de théâtre.
On a fait des répétitions pendant le mois de juin. Alors la particularité, c'est qu'on a répété scène par scène. Et on a donné les scénarios des scènes uniquement aux acteurs et aux actrices concernés par la scène. Donc, par exemple, Lila, je lui ai donné sa scène écrite, mais toutes les autres scènes, elle savait pas ce qui se passait dans le film. Et c'était une volonté. On voulait que chacun reste complètement concentré dans sa petite bulle et se concentre sur sa scène sans être parasité par les énergies des autres. Donc, comme ça, c'était un peu, il y avait des ruptures, quoi.
Et après, vous avez tourné pendant 5-6 jours d'affilée, je crois. Ouais. La même chose, ouais. Évidemment. Et il fallait retenir le meilleur jour.
C'est ça qu'on a bien aimé, c'est qu'on devait composer avec l'imprévu. Donc c'était vraiment une danse avec la ville de Paris en permanence, et avec tout ce qui se passe, quoi, toutes ces respirations, toutes ces folies, tous ces accidents. Et c'était un état d'acteur qu'on n'a pas l'habitude aussi, quoi. De tourner dans la circulation, sans autorisation, au milieu des gens. On l'a vu encore ce matin, parce qu'on a tourné à La Rochelle, on a fait un plan séquence de 10 minutes, là, sur le port. Et il y a vraiment plein de choses qui se passent tout le temps. Il y a plein de gens qui nous regardent, il y a plein de gens qui interagissent avec nous. Il y a plein d'événements, de micro-événements, en fait, tout le temps. Et typiquement, ce matin, il y avait un camion de la voirie qui nettoyait, et du coup, ça faisait un méga bruit. Et en fait, bah, ça nous... Moi, du coup, j'étais là en train de dire mon texte, et d'un coup, j'ai fait « Ouais, en fait, il y a les graisses polyinsaturées et les graisses monosaturées !» J'ai crié, parce que je devais couvrir la voie du camion. Et en fait, ça donne quelque chose dans la scène. C'est pas prévu, mais c'est charmant dans la scène.
Ouais, ça rajoute le petit truc en plus. Alors toi, tu cours, hein, tu cours beaucoup, puisque tu viens de piquer du fond de teint, en quelque sorte, et donc tu rejoins ta copine. Quelle tu racontes? Tu racontes pendant 10 minutes, où tu racontes évidemment la connerie que tu viens de faire.
Oui, mais après, j'avoue que...
On est fiers.
Après, j'avoue, courir, c'était un peu compliqué, mais après...
Oui, parce qu'on sentait que...
Mais j'essaie un peu de le masquer, mais je crois que ça n'a pas trop marché, du coup.
Non, faut que ça soit réaliste, au moins.
Mais après, la personne qui filmait me donnait mon top, puis je connaissais mon texte, puis en fait, la fille qui joue dans la scène, c'est vraiment ma copine. Donc, du coup,
ça aide.
Du coup, c'était un peu rassurant, puis... Enfin, ça va, quoi. On a aussi nos blagues à nous, donc en vrai, ça allait, quoi.
Et toi, Léo, alors ton rôle?
Moi, je suis c'est la scène qui va dans le métro. Donc c'est la scène où on parle un petit peu de sexualité, d'inventer d'autres façons d'appréhender la sexualité.
En gros, tu te confies à une amie. En gros, dans la scène, tu te confies à une amie sur tes sex tapes, on peut dire ça un peu comme ça.
Ouais, que pendant le confinement, en fait, je me faisais chier avec ma copine et que du coup, on a commencé à essayer de faire des trucs et que tout d'un coup, on commençait à faire du porno amateur et qu'on mettait ces images sur internet sans qu'on voit notre visage et que je commençais à avoir des fans.
Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Non, mais ce qui est bien, c'est que tous les personnages qu'on croise au fur et à mesure de cette aventure, ils sont tous différents, ils ont tous des caractères différents.
Ouais, c'est ça qu'on voulait. C'est vraiment ça qu'on voulait, et puis convoquer aussi de la diversité. Donc là, Léo, il parle de réinventer notre rapport au désir. Lila, elle parle de réinventer notre rapport à l'achat, au capitalisme, de manière globale. Elsa, qui arrive juste après Lila, elle re-questionne la question du mariage, de l'engagement. Il y a des questions autour de la marginalisation de certaines personnes, comme la personne dans le métro. Le fait qu'on abandonne ces personnages, et qu'en même temps, c'est aussi eux qui sont les plus poètes et les plus beaux. Et c'est ça qu'on voulait. On voulait faire une espèce de tour d'horizon et puis de parler aussi des personnes racisées, des personnes des minorités, tu vois, des personnes qui sont homosexuelles, qui vivent leur vie ce qu'on voulait, c'était dans les scènes que ce soit pas forcément un thème et questionner le genre aussi, parce qu'on est dans ces questions-là aussi sur le féminisme aujourd'hui. Est-ce que le genre ce serait pas un truc à effacer en fait? On montre aussi des personnes racisées, donc moi par exemple mon personnage c'est une personnage qui est un artiste des beaux-arts et elle se questionne autour de la couleur noire et en fait il y a une espèce de quiproquo avec sa pote qui est aussi aux beaux-arts et qui elle est de couleur noire et donc on parle...
Là ça disserte pas mal hein.
Ouais, puis en fait ça s'écoute pas vraiment, ça se comprend pas vraiment, pourtant on parle un peu de la même chose, en même temps pas du tout. Moi je parle vraiment de l'histoire de la couleur et Aurore elle parle de la couleur de l'histoire et du coup c'est ça qui est intéressant en fait, c'est comment on peut aussi extrapoler sans forcément parler du vif du sujet. Tout à l'heure il parlait Léo du confinement, mais en fait dans le film on parle même pas du confinement, juste Léo il dit on a été enfermé très longtemps avec ma copine, et en fait c'est ça qui est fort, c'est aussi la complicité avec le spectateur qui sait qu'on est en 2020, on met les masques dans le métro, on n'a pas besoin d'en dire plus.
Bon, en tout cas il y a plein de belles choses dans ce film, moi je vous conseille vraiment d'aller voir Année 20. On va écouter la bande annonce et puis on va revenir dans un instant. Alors dis-nous, Joris, c'est un co-scénariste, hein, il est aussi très très impliqué dans le projet.
Oui, Joris il est très impliqué, il a écrit grande partie des scènes, il a joué dedans aussi, il joue Map, et il a joué dans le premier épisode de la série qu'on a tourné à Nantes il y a 2 jours. C'est un mec extraordinaire, hein. J'espère que vous allez passer du bon temps avec lui tout à l'heure.
Et puis il va pas venir tout seul, il y aura Margot, il y aura François qui vont venir, et puis aussi Jean le musicien. Voilà, on va parler justement de cette fin un peu comédie musicale aussi, voilà, sans en révéler le contenu bien évidemment, mais voilà, on va évoquer tout ça avec eux.
Et ce qu'on voudrait dire, je sais que ça tient au cœur de Joris aussi, c'est important pour nous dans ce film de dire aux gens que la création ça appartient à tout le monde et on veut que tout le monde s'en empare, quoi. Que créer c'est possible, si on a des envies artistiques c'est possible de les faire, et voilà, c'est notre grande joie de pouvoir partager ça avec les gens.
Et ça donne Année 20, mercredi au cinéma. Voici tout de suite la bande annonce. Merci Lila, merci Léo et merci Noémie, et on revient juste après avec le reste de l'équipe. À tout de suite.
Merci beaucoup Alain.
Merci.
Super, merci.
La période que tu vis en ce moment, c'est un bouleversement pour toi.
Toi tu regardes jamais de porno?
Si.
Mais toi tu veux parler art? Mais vas-y, dis-moi, dans la vraie vie des gens, il y a quoi bon?
Ça y est, la bague. Qu'est-ce que tu dis, toi? C'est quoi? C'est pour le plaisir de faire un jogging, gros?
Mais je sais pas, frère, tu te tournes ma gueule tout à l'heure, là, j'ai pas...
Salut. Je vais vous raconter comment on a tourné un film d'une heure et demie dans Paris, à la sortie du confinement, en un seul plan, sans jamais couper la caméra.
La suite de notre spécial Année 20, c'est dans un instant. Alors à tout de suite dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. La télé, le talk show radio, le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, on continue à parler d'Année 20. Le film sort mercredi dans les salles. Vous savez, c'est notre coup de cœur artistique parce que c'est un vrai film artistique. On en parlait avec Noémie, déjà toute une partie de l'équipe à l'instant. Et on va continuer avec Joris Savoldo qui a fait partie de l'écriture, qui a co-signé notamment le scénario et qu'on voit aussi dans le film. Bonjour Joris.
Bonjour.
Il n'est pas venu tout seul, puisque tu es venu aussi avec toute une partie de l'équipe. Alors présente-nous un petit peu tous tes acolytes, Joris.
Donc on a François Debreuer, Margot Bonin et Jean Jaune, Jean Thévenin.
Qui est un musicien de ouf, elle nous l'a dit. On va vous demander déjà chacun, Margot, François, qu'est-ce qui vous a attiré dans le projet, qu'est-ce qui vous a donné envie d'y aller. Joris, pour commencer, toi, puisque tu as co-signé en plus le scénario, donc tu es aussi très très impliqué, mais vous êtes tous très impliqués, c'est un peu aussi la particularité de ce projet.
Oui, bien sûr. En fait, c'est un peu une histoire de vie avant d'être une création artistique. L'idée, c'était de se retrouver avec des gens qu'on aime, créer avec les gens qu'on aime. C'est une vraie proposition pour nous, aussi bien dans le scénario que dans le jeu, que dans la production. Donc du coup, convaincre des gens qu'on aime, avec qui on a déjà travaillé ou alors avec qui on rêve de travailler, c'est beaucoup plus simple, surtout après une période comme le Covid où on avait une envie folle de se retrouver tous.
Margot ?
Non, c'était super de retrouver tout le monde parce qu'en fait, c'était une aventure collective. Vraiment. Et c'était très chouette de tourner tous ensemble.
Ton rôle, en quelques mots, Margot?
Alors, en fait, on est. Moi, je suis avec Mehdi Djadi et François Marc. Voilà, c'est un moment de vie au bord du canal Saint-Martin. C'est 3 amis qui se retrouvent, qui font une partie d'échecs en ligne.
François,
ouais.
Ton rôle, en quelques mots?
Mon rôle, c'est un acteur qui, pendant les confinements, le port du masque a un peu bouleversé. Et c'est un type assez émotif et il s'est rendu compte qu'il voulait complètement changer de carrière.
C'est un humoriste en plus.
T'es un humoriste et je pense comme faut dire, ça a été un peu mon cas, mais je pense que beaucoup d'artistes pendant cette période-là ont eu des remises en question professionnelles. Et disons que lui c'est le cas, jusqu'à l'absurde, il veut vraiment changer de carrière.
Et on le suit avec son agent en pleine discussion, évidemment dans Paris, dans les rues de Paris.
Voilà, c'est ça, son agent qui est joué par François Rollin. Et c'était un des arguments supplémentaires qui m'a donné envie de faire le film, c'était de partager aussi une scène avec Rollin. Et puis avec Joris, on était camarades au conservatoire. Donc quand il m'a appelé pour me proposer cette aventure, c'était évident que j'allais les suivre.
Alors toi, on te voit sur la scène de fin, on va pas révéler pourquoi, parce que t'es un peu, on va dire, celui qu'on attend pendant tout le film, presque.
Oui, je pourrais être une sorte de joueur de flûte de Hamelin, on pourrait dire, de manière métaphorique. Je suis une sorte de berger, musicien, voilà. Je veux pas trop en dire. Par contre, je voudrais répondre à l'autre question qui était pourquoi vous avez accepté quand on vous a proposé ce.
Oui, elle allait venir, j'allais te la reposer aussi.
Bah, en fait, moi, c'était pendant on a été contacté pendant le grand confinement, hein, de 2020. J'étais contacté par, je crois, Joris et Elisabeth Vogler. Et en fait, bon, moi, j'avoue que j'étais dans une période un peu dark parce que j'avais perdu des gens proches pendant la pandémie. Il y a eu quand même pas mal de gens qui sont décédés pendant cette pandémie. Et là, d'un seul coup, c'était un projet hyper positif. C'était vraiment la vie qui revenait, quelque chose d'hyper optimiste, positif, une vraie étincelle de vie. J'ai presque envie de dire que ce film m'a fait repartir sur de bonnes bases bien vitales.
Justement, vous avez fait une tournée de 12 villes. Là, on a 2 jours de la sortie du film. Vous avez fait une tournée avec 12 villes et vous avez fait un peu 12 années 20 dans des villes de province. Est-ce que c'était exclusivement pour le cinéma? Est-ce qu'on peut les voir aujourd'hui sur YouTube? Parce que les auditeurs qui nous écoutent peuvent aller voir justement ces 12 villes que vous avez aujourd'hui visitées pendant ces avant-premières.
Oui, c'est possible de retrouver ça sur tous les réseaux sociaux habituels, Facebook, Instagram, sur YouTube. Et il suffit de taper sur Google « Années 20 live ». Et là, vous retomberez sur une page où vous aurez tous les épisodes.
Et on a des épisodes dans notre région en plus. Alors voilà, profitez-en. Il y a notamment La Rochelle qui en a fait partie, Bordeaux. Voilà, il y a un vrai Tour de France, effectivement. Est-ce qu'il y a sur votre scène des moments qui ont été, je vais pas dire borderline, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé un peu de s'interposer dans le tournage? Parce que vu que la caméra ne coupe jamais, il suffit que, allez, vulgairement, un pingouin arrive en plein milieu et se retrouve à vouloir casser votre scène. Est-ce que ça, ce genre de moment, c'est toujours un peu la hantise quand on tourne ce genre de projet artistique? François.
Oui, moi je tiens à dire que quand ils m'ont parlé du projet, j'ai pas cru possible l'entièreté de ce plan et je me suis tout de suite dit, bah évidemment, il va y avoir des incrustes, il va y avoir des. Et puis, du coup, j'ai été un petit peu frileux sur le projet là-dessus et quand ils ont commencé à m'expliquer qu'en fait ils avaient tout prévu et que s'il y a quelqu'un qui débarque devant la caméra et qui dit, ah, qui veut parler, qui veut s'exprimer, ils avaient prévu qu'il y ait un régisseur qui l'embarque en lui disant, ah, je t'ai retrouvé, enfin voilà, il y a des situations possibles de rattrapage. Je me suis dit, bah oui, d'accord, donc ils sont vraiment préparés, ils savent à quoi s'attendre.
Alors c'est ce qu'on disait avec Noémie, c'est ce qu'elle nous a un petit peu raconté. Vous avez tourné pendant 6 jours, 6 fois le plan séquence le soir entre 19h30 et 21h en gros, et donc vous avez gardé la meilleure journée. Qu'est-ce qui vous a fait estimer, vous, que c'était la meilleure journée qu'on retrouve aujourd'hui sur l'écran?
Le jeu des acteurs. En fait, il y a eu vraiment 2 belles prises, mais il y en avait une où c'était plus la technique, la lumière, la ville était un peu magique, parce qu'en fait, finalement, dans ce film, la plus grande actrice, presque, c'est la ville. Comme là, dans la série, pour chaque épisode, finalement, c'est la ville qui devient actrice, finalement, de l'épisode. Et il y a eu un soir où Paris était un peu magique, la lumière qu'on rêve sur les bâtiments, enfin, vraiment tout ce qu'on voulait. Mais au niveau des acteurs, c'était pas tout à fait ça, quoi. Ça manquait un tout petit peu de magie. Et le lendemain, la ville a moins donné, on va dire, quelque part, mais les acteurs ont beaucoup plus donné, et ça, du coup, ça a fait le choix tout de suite, quoi. Le jeu d'acteur avant tout.
C'est une belle histoire, en tout cas, Années 20, si vous voulez regarder, voilà, les petites pastilles, déjà pour vous donner l'eau à la bouche sur YouTube, voilà, n'hésitez pas à aller les voir, ce qui a été fait en région, et puis vous pourrez voir, voilà, le grand Années 20 sur grand écran, c'est mercredi dans les salles, je vous le conseille, vous allez voir, c'est un pari artistique très audacieux, très original aussi, c'est ce qu'on a aimé, c'est vraiment l'originalité du projet que vous nous avez proposé. Dans la scène de fin, ça chante, ça on peut le déflorer un petit peu, mais on ne dit pas dans quelles circonstances ni comment. Tu chantes vraiment?
Oui, je crois qu'il y a un mélange de, il doit y avoir un mélange de sons directs et de sons qu'on a forcément, comme dans toutes les scènes chantées dans les films, il y a toujours un petit peu de travail en studio derrière, hein. Mais il me semble qu'il y a un mix avec quand même le son direct qui a été utilisé.
On termine par vos projets? François?
Moi, je joue au théâtre, je joue un solo qui s'appelle Rencontre avec une illuminée, là, que je joue à Paris encore quelques dizaines de dates, et puis après, je vais partir en tournée pendant 2 saisons avec ce solo.
Ouais. Chouette. Margot?
Moi, je joue dans deux spectacles à Paris. Il y en a un qui s'appelle Startup au Théâtre La Flèche et un autre qui s'appelle Particulière à la Manufacture des Abbesses.
Joris ?
Moi, je suis en répétition sur un spectacle sur les Black Panthers, mais qui verra le jour que la saison prochaine. Et sinon, en écriture, justement, avec Noémie aussi, d'une mise en scène sur la relation du monde avec les femmes et les discriminations en général.
Et argent pour toi ?
En ce moment, je travaille à la Comédie Française avec Louis Arène, qui met en scène un Molière, parce que c'est l'année Molière, qui met en scène une farce de Molière, et il m'a demandé de faire la musique. Voilà. Ça s'appelle le mariage forcé, mis en scène par Louis Arène.
Bon, et bien, suivant en tout cas tous vos projets. Merci à vous quatre d'avoir été avec nous. Année 20, c'est mercredi au cinéma. On va se requitter du coup avec un petit extrait. À très vite. Merci.
Alors que le cinéma est à l'arrêt, nous, on n'a jamais vu autant de possibilités de faire des films. Et on s'est lancé dans ce défi, même si tout le monde nous disait que c'était quasi impossible.
Un vrai plan séquence sur 6 km, à pied, en vélo, en métro, en scooter. Tourner sans filet de sécurité dans la rue, au milieu de la foule et de la circulation. Un dispositif technique ultra léger et une organisation millimétrée pour se fondre dans la ville.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Coup de cœur télé consacré ce soir à Nouvelle Graine qui sera diffusée sur France 5. Ce documentaire a obtenu d'ailleurs le prix spécial Nature Environnement au Festival de Luchon où nous avions rencontré les deux co-réalisateurs et scénaristes Sophie Labrouillère et Nicolas Mérieux. Et Nicolas est avec nous aujourd'hui en ligne pour en parler. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors on s'était vu effectivement à Luchon où vous nous aviez offert une belle réaction juste après la mise en place de ce prix spécial Nature Environnement au Festival de Luchon. Une belle reconnaissance pour ce documentaire qui raconte un peu votre changement de vie en quelque sorte. Hein.
Ah bah oui, absolument. On s'y attendait pas du tout. Ça nous a fait très 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 plaisir. Et effectivement, le documentaire raconte qu'en partie mon changement de vie parce que finalement c'était pas moi le plus intéressant dans cette histoire. Je ne suis qu'un prétexte.
Et oui, et il en faut. Alors on vous voit très souvent sur des pastilles justement écologiques sur TF1 régulièrement. Et là on est vraiment sur un grand format où pendant 5 ans vous avez fait des vidéos et des spectacles sur l'environnement. C'est vraiment la cause de votre vie aujourd'hui, hein, Nicolas, on peut le dire. Hein.
Mais pas qu'aujourd'hui, hein. Je pense que c'est la cause de ma vie depuis bien longtemps. Ça fait 10-15 ans que je fais des spectacles et des vidéos sur ces thématiques-là. C'est juste qu'effectivement là ça devient de plus en plus concret parce qu'avant on va dire simplement je fais des vidéos et des spectacles et puis maintenant je vais plus loin en essayant de monter une ferme et en accordant mes valeurs à ma vie au quotidien quoi.
Alors vous avez quitté Paris pour vous installer dans les Landes, dans notre belle région en plus de Nouvelle-Aquitaine et il faut dire que ce changement de vie vous a fait beaucoup de bien je crois.
Oh bah, il est salvateur. Non, sans dégré. Bah, après moi je suis pas parisien à la base, hein. Je par la force des choses pour le travail j'étais obligé d'y aller mais je me suis jamais senti aller là-bas. Ouais. Et à l'inverse, j'ai déjà vécu dans les Landes avant de vivre à Paris et c'était l'endroit je pense où je me sentais le mieux. Donc effectivement depuis que je revis ici, ça va faire maintenant un peu plus de 4 ans, je suis un nouvel homme, ça c'est clair. Et puis comme je vous l'ai dit, voilà, je me rapproche de plus en plus de mon rêve qui est de monter une ferme ici et c'est sûr qu'entre la vie ici ou la vie là-bas dans la folie citadine, c'est pas la même chose.
Alors qu'est-ce qu'on va y voir concrètement dans ce film Nouvelle Graine ?
Ah ben, dans ce film finalement, donc comme on le disait, moi je suis un prétexte effectivement, puisque voilà, là-bas je suis comédien réalisateur vivant sur Paris et puis je décide de venir m'installer dans les Landes pour passer mon diplôme de responsable d'exploitation agricole. Et en passant ce diplôme, eh bien forcément j'ai été obligé de faire un stage. J'en ai fait plusieurs, mais dans le film, on va vraiment s'arrêter sur un stage en particulier, qui est la ferme de Zoé et Anthony, un jeune couple. Donc lui est issu de Saint-André-de-Seignan, et elle était parisienne aussi à la base. Et puis on suit leur aventure d'une première installation pour ces néo-paysans. Et on voit toute la difficulté d'une installation paysanne à petite échelle. Hein. On est proche de la permaculture. Et voilà, donc on voit les rêves, on voit les désillusions, on voit la difficulté du terrain, on voit un petit peu tout ça, quoi.
Oui, et puis il faut dire aujourd'hui qu'il est difficile de marier agriculture et écologie, mais de plus en plus, on en parle, de plus en plus, il y a des fermes de permaculture d'ailleurs qui se montent. C'est aujourd'hui, ce n'est plus un sujet tabou, justement, de marier l'écologie et l'agriculture, de faire une agriculture saine. C'est vraiment aujourd'hui l'actualité. Hein.
Bah, c'est d'actualité, et puis je pense qu'il y a aussi une urgence. Je veux dire, effectivement, après-guerre, on a créé cette agriculture industrielle pour pouvoir nourrir les gens, hein, on était obligés de passer par là. Maintenant, aujourd'hui, les méthodes agroécologiques ont quand même bien évolué. Et puis, on sait que notre agriculture moderne est dépendante des carburants fossiles, hein, que ce soit pour créer des engrais, des pesticides, pour faire marcher nos tracteurs. Donc, on sait très bien que sur le long terme, on va devoir se passer de toutes ces énergies fossiles. Et donc, il faut, j'ai pas envie de dire réinventer une agriculture, parce que finalement, c'est l'agriculture que nos grands-parents faisaient, quoi, hein. Donc, ça revient, entre guillemets, je mets des gros guillemets, à la mode, parce que le problème de la mode, c'est que ça se démode. Donc, j'espère que c'est pas une mode, mais qu'on a vraiment conscience qu'il faut produire autrement, en tout cas.
Alors, vous avez coécrit, réalisé avec Sophie Labruyère, hein. Vous avez, c'est vraiment un travail à quatre mains, ce documentaire, hein.
Tout à fait, oui. Bah, Sophie Labruyère, que, alors, j'ai eu la chance de travailler avec elle à l'époque où je faisais des vidéos pour France Info et pour ma chaîne YouTube, hein, des vidéos qui s'appellent La Barbe. On travaillait déjà ensemble quand on habitait Paris, et puis on a déménagé également en même temps dans le sud-ouest. Et c'est vrai que pour un film aussi intimiste, parce que c'est quelque chose de très intime, hein, il faut accepter qu'en un an, il y ait une caméra qui nous suive un petit peu à l'école, chez nous.
Ben oui, c'est ça.
En stage, il faut avoir quelqu'un en qui on ait confiance, hein. On se laisse pas filmer comme ça aussi longtemps par quelqu'un qui, on va dire simplement, un collègue de travail, non? Il fallait quelqu'un qui, voilà, en qui on a confiance, et Sophie, c'était un peu une évidence, quoi, oui.
Alors là, les honneurs du prime time sur France 5, hein, puisque le film est déjà disponible sur France.tv. Vous pouvez le voir, bien sûr, il est déjà en ligne si vous voulez ne pas attendre ce soir. Mais en tout cas, ce soir, c'est les honneurs du prime sur France 5. Ça, c'est un beau cadeau.
Ah ben, on attendait que ça. On a créé le film, effectivement, pour France Flash, donc une plateforme, on va dire, plutôt Internet, hein. Et puis, quand on voit le succès qu'a le film, le plaisir qu'il a, et puis nous, on a eu la chance aussi, pendant le Festival de Luchon et à d'autres séances, de le voir dans des grandes salles, on dit qu'effectivement c'est un film qui vaut la peine d'être vu sur un grand écran, quoi.
Oui, et puis par le plus grand nombre, effectivement, c'est un bel exemple que montre ce film Nouvelle Graine ce soir, des beaux parcours que vous allez pouvoir suivre. On va écouter la bande-annonce avant de se quitter. Nicolas, est-ce que vous avez des projets, par contre, peut-être des missions que vous auriez envie de présenter, une vraie mission sur l'écologie, un peu dans le style de ce que fait Hugo Clément, par exemple, ou Sunshine? Est-ce que vous avez des projets dans ce sens?
Alors, c'est en préparation, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais effectivement, je travaille sur plusieurs projets d'émission pour la télévision en rapport avec l'environnement. Mais vu que c'est en préparation, pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. Mais oui, c'est des choses qui se préparent, en plus du fait de mon installation en tant que paysan dans les Landes, quoi.
Bon, bah, vous reviendrez nous en parler.
Avec plaisir.
Bon, Nicolas, merci d'avoir été avec nous, Nouvelle Graine. C'est donc ce soir sur France 5. C'est à ne pas manquer, bien évidemment. Et je vous souhaite bien tout le meilleur pour la suite. Et on va écouter la bande-annonce. Merci, à bientôt, Nicolas.
Merci à vous, à très vite.
Au revoir.
Vous avez fait une production à l'ancienne, quoi.
Le retour à la nature.
Oh là là, regarde celui-là.
Attends, mais ça sera jamais fini.
Est aussi un parcours du combattant.
À partir de juillet, c'est 800 euros par mois que tu vas rembourser.
Ouais.
C'est en dessous, c'est tout, c'est fou.
C'est voir le boulot que c'est, tu sais, la pression que c'est, quoi. C'est dur, quoi. Si mon grand-père me voyait faire ça, il serait trop fier.
C'est pas vrai. Excellent.
Coup de cœur télé consacré à Poulet Grillé qui sera diffusé demain soir sur France 3, où on y retrouve une habituée de l'émission qu'on a toujours plaisir à recevoir, Barbara Cabrita, qui est avec nous en ligne. Bonjour Barbara.
Salut, bonjour tout le monde.
Merci d'être avec nous, ça me fait super plaisir de t'avoir pour cette comédie policière. Alors moi j'ai beaucoup rigolé aussi en le voyant, et évidemment ce film, puisque tu incarnes Anne Capestan, qui est une flic de la BRI de Lyon et qui se retrouve mutée à la suite d'une grave erreur à la tête d'une quatrième brigade mystérieuse, que je dirais un peu une brigade de bras cassés, hein. C'est un peu ça.
Ah oui, une brigade d'enquêteurs un peu loufoques, décalés, avec des méthodes un peu absurdes, mais en même temps, c'est des méthodes très sincères, donc c'est ça qui est drôle, c'est leur sincérité.
Alors en plus, en enquêtant sur le meurtre inexpliqué d'un bichon maltais intitulé Pitou, on s'apercevra plus tard que c'est pas son vrai nom, eh bien, on s'aperçoit que ça va mêler une affaire de braquage beaucoup plus importante dans laquelle cette quatrième brigade va s'enfourner et va tenter, eh bien, de démêler effectivement cette affaire qui pourrait réhabiliter peut-être Anne, en tout cas.
Bah oui, elle l'espère, elle base un petit peu son retour là-dessus, tout en étant très intriguée par cette équipe, justement, où elle se dit, tiens, ça va pas être si facile que ça. Et en même temps, au début, elle se dit, bon, finalement, c'est que un petit bichon qui est mort, un petit pitou qui est mort. Et puis, effectivement, ça va se dérouler vers une enquête beaucoup plus importante. Et d'ailleurs, cette enquête, elle est vraiment, elle est très intéressante. Parce que moi, qui ai eu beaucoup d'enquêtes policières, justement, dans les scénarios, on se dit toujours à un moment, tiens, ça, ça peut coincer ou ça c'est pas crédible. Alors là, franchement, c'est très très bien ficelé cette enquête et il faut dire que c'est l'adaptation du roman de Poulet Grillé de Sophie Hénaff aussi.
Alors c'est une quatrième brigade qui manque de moyens, en gros, elle n'a rien pour travailler cette brigade-là.
Ah oui, là c'est complètement, on est vraiment dans le décalage total, dans l'absurde, et puis en plus on va voir un monsieur, le propriétaire de ce petit bichon maltais, un pauvre monsieur, donc c'est vrai qu'il y a un vrai vrai décalage, c'est ce qui crée le comique de situation, puisque les personnages sont très sérieux, et c'est bon pour le moral d'ailleurs. C'est exactement ça. On n'a pas le choix, on est obligé de rouler avec cette chanson dans cette voiture. Donc au bout d'un moment, on s'y habitue. Mais effectivement, le téléspectateur, lui, ne s'y habitue pas. Et c'est ça qui crée vraiment cette comédie.
Il y a des moments, t'as dû avoir du mal à garder ton sérieux quand même, non?
C'est le rôle le plus sérieux et le plus cadré. Face à quand même quatre personnages et personnalités qui sont très très drôles et dans la vie et dans leur personnage. Donc là, c'était il y a eu des moments où on a eu des fous rires énormes et puis aussi notre réalisateur Pascal Lamani nous permettait à la fin de chaque prise quand il avait un peu ce qu'il voulait. Et là, c'est carrément des prises buffet campagnard. Donc ça veut tout dire, ça veut dire allez-y, prenez tout ce que vous voulez. Et on y va et on verra bien si je récupère quelque chose au montage.
C'était vraiment le réalisateur qu'il fallait, Pascal Lamani, parce que il est habitué à la comédie policière, il a réalisé énormément de Candice Renoir, et il est vrai que Pascal, la comédie policière, voilà, ça le connaît bien, hein, quand même.
Oui, et puis il est vraiment très friand de ça, quoi. Donc, il faisait un peu partie de notre équipe. On était tous, que ce soit comédien, réalisateur, technicien, machino, électro, tout, déco aussi, la déco. On avait tous la connerie.
On va citer les personnes qui t'entourent. Marie-Armelle Degui, Hubert Delattre, qui est incroyable dans le rôle de Le Breton aussi. Marie Petiot, oui. Alias La Poisse. Pour les fans d'ici tout commence, vous reconnaîtrez Janice Abric dans le rôle de Zach également. Le bel amoureux d'Elsa Lugini dans ici tout commence qui est à tes côtés. Aussi dans ce film, Joss Bibring, également une amie de l'émission. Et puis Samuel Labarde dans le rôle du méchant, quand même aussi, Nathalie Besançon. Bref, ouais. T'es super bien entourée quand même.
C'était un plaisir parce qu'en plus, ils sont tous. Alors, pour l'équipe des bras cassés, ils sont vraiment comme ça dans la vie. Je tiens à le préciser, c'est important. Marie Petiot a vraiment la poisse dans la vie, vraiment.
Oui.
Mohamed, qui joue Mac, est vraiment comme ça. Il est d'une vivacité incroyable. On a du mal à le suivre. Il a un débit de parole qui est assez surprenant. Il est d'un calme et aussi d'une discrétion. C'est-à-dire qu'il est vraiment, il est adorable. Marie-Armelle, on l'appelle la comtesse dans la vie, puisqu'elle, elle a un peu cette attitude-là aussi. Vous savez, très élégante, avec un verbe très acéré. Et Hubert, avec son côté un peu pince sans rire. Alors, il n'est pas dépressif, mais il est pince sans rire dans la vie. Et c'était vraiment génial de travailler avec eux, parce que tous, Janice, Nathalie Besançon et Samuel Labarre, sont des super partenaires, vraiment. Et puis vraiment, on arrive avec tous. Il y a une scène avec Nathalie Besançon, notamment, où c'était la scène de l'interrogatoire. Elle est de l'interrogatoire dans la quatrième brigade, pas l'interrogatoire à la bijouterie, mais incroyable. Avec Marie Petiot, quand on la regardait, c'était génial. C'est ça qui est bien, c'est que quand on est comédien, on adore jouer ce genre de choses dans un cadre sérieux, être dans l'absurde. Pour moi, c'est un mélange entre OSS 117 et Monk, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais.
Tu vois?
Ouais, tout à fait. Et c'est le pilote d'une éventuelle, peut-être, future série?
Alors, il faut que le succès soit vraiment au rendez-vous parce qu'on serait vraiment heureux de partir sur une suite. C'est vrai que ce serait vraiment génial et puis ça n'existe pas beaucoup, hein, ce genre de téléfilm, de série policière, comico-absurde. À la télé française, donc ce serait vraiment chouette.
Bon, moi je suis sûr, chers auditeurs, que ça va vous plaire. Poulet Grillé, c'est demain soir sur France 3, on va évoquer tes projets. Alors, moi j'ai été effondré quand j'ai su que Félicia dans Sam n'allait pas revenir pour une 7e saison, mais
oui.
Mais c'est pour la bonne cause, puisque tu as de beaux projets personnels à mener aussi, puis c'est pas dit que tu reviennes pas pour la saison 8, s'il y a une saison 8 dans Sam, mais en tout cas, Félicia va faire un break pour cette saison 7, mais c'est un personnage auquel les téléspectateurs se sont attachés, mais d'entrée, quoi.
Ah ouais, d'ailleurs, vraiment, je tiens à remercier tous les gens qui m'ont envoyé des messages super beaux sur Instagram, sur les réseaux sociaux, et puis aussi des témoignages qui m'ont beaucoup touchée, de gens qui n'étaient pas super bien dans leur peau, et j'ai lu tous ces messages, j'ai répondu à vraiment la plupart, Et je trouve que ce personnage a amené justement une sorte de sympathie où on a envie de se confier à elle et en même temps on a envie de lui dire bah tiens, comment est-ce que tu fais pour résoudre tes problèmes avec le sourire en fait. Pour moi, c'était ça ce personnage, et c'était vraiment important d'avoir cette couleur là. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que les gens ont ressenti aussi ça. J'avais vraiment ce désir d'emmener ce personnage vers une relativité qui était bien plus haute que simplement traiter d'un problème au premier degré. Même pour moi, hein, personnellement, ça a été super. Et du coup, bon, c'est vrai qu'il a fallu faire un choix pour la suite parce que j'ai effectivement un projet de documentaire sur l'histoire de l'immigration portugaise en France qui me tient vraiment à cœur depuis des années. Et j'ai dû dire, attends, voilà, il faut... Là, ça va me prendre vraiment beaucoup de temps et il faut que je fasse un choix.
Bon, ben en tout cas, on t'attend évidemment dans notre émission pour venir en parler quand le documentaire voilà sera avancé, tourné, préparé, mixé, monté. Voilà, on sera à tes côtés, bien évidemment, Barbara. Tu le sais.
Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. J'ai hâte.
Ben oui, nous aussi, on a hâte de voir ça, puis d'en apprendre plus, effectivement, aussi. Ça fait partie de ton histoire, hein, évidemment. Oui. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Barbara. On te retrouve dans Poulet Grillé, en tout cas, déjà. On va rire un peu demain soir, ça va faire du bien. Et c'est à 21h10 sur France 3. Merci et à très bientôt.
Merci.
Et on se quitte tout de suite avec la bande-annonce. C'est parti.
Bientôt sur France 3.
Écoutez, Capestan, vous voulez redorer votre blason ? Je vous mets à la tête de la 4e brigade.
C'est une blague.
Vous la trouverez à droite, en bas des escaliers.
Rencontrez la plus atypique des équipes de flics.
Grillé ? Ça existe vraiment, alors ?
Barbara Cabrita. Samuel Labarthe.
Je voyais plus musclé.
Coup de cœur télé consacré à une mère parfaite, la mini-série débarque sur TF1 pour deux soirées événements à la tête Omer Sisley et Julie Gayet qui est notre invitée pour en parler dans le rôle d'Hélène Berg. Bonjour Julie.
Bonjour, merci de m'inviter.
Merci d'être avec nous, fidèle de l'émission. Ce qui te plaît, hein, Julie, franchement. Et là, une mère parfaite, c'est vraiment la mini-série événement de cette rentrée où tu joues le rôle d'une mère de famille qui va en apprendre des vertes et des pas mûres sur sa fille, je crois bien.
Mais comme on le sait, une mère parfaite, bah, la mère parfaite, ça n'existe pas. On a beau être essayer d'être le plus parfait, nos enfants, je pense, nous en voudront toujours. Ils auront besoin, en tout cas, pour se construire, de nous en vouloir. On sera jamais tout à fait parfait. Donc je me dis, voilà, déjà aimons-les. Mais donc elle va forcément aller de déception en déception et avec ses enfants. Mais c'est surtout un thriller haletant, assez surprenant sur cette relation mère-fille où vous ne reconnaîtrez pas Omer Sisley. Ça, je peux vous le dire. Vous allez être surpris au bout d'un moment. Vous allez dire, mais c'est qui ce garçon? Ah, mais c'est Omer Sisley que je retrouve, que je connais bien, qui est un bon camarade puisqu'on a eu la même formation de théâtre. Et j'étais très très heureuse quand on m'a proposé de tourner avec Omer Sisley. Voilà. Donc, on a passé 3-4 mois dans les séries. Ce qui est le plaisir de la série, c'est de construire un personnage sur plusieurs épisodes. Donc, on a passé 3-4 mois et j'espère que vous aimerez.
C'est une adaptation hein, de Perfect Mother, c'est ça?
Oui, d'un roman. Donc vraiment le côté thriller comme un bon, je veux dire, de page, on dit un page turner, c'est ça l'expression, mais vraiment où on se dit, ah là là, comment ça va finir, fonctionne très bien. Et en même temps, c'est très subtil sur la relation mère-fille. C'est très beau parce que, comme dirait ma grand-mère, à petits enfants, petits problèmes, à grands enfants, grands problèmes, cette mère a cette fille de 20 ans, 19 ans, qui va l'appeler, elle rentre dans un commissariat et elle lui dit, maman, on m'a demandé d'aller, je suis accusée de meurtre, on me demande de rentrer dans un commissariat. Donc ce truc atroce, moi c'est mon pire cauchemar, c'est que
Le personnage vit à Berlin en plus et vit pas sur place.
Oui, c'est entre Paris et Berlin, parce qu'elle a essayé de mettre de la distance avec sa mère, on comprend qu'elle a voulu faire différemment de sa mère, qui travaillait, qui devait être une femme assez indépendante et pas forcément maternelle. Elle a eu envie vraiment de dédier sa vie à ses enfants, éduquer ses enfants, et sa fille va à Paris pour des études, et voilà, tout bascule. Pire cauchemar, une soirée qui dérape. C'est dur de protéger ses enfants. On peut pas protéger complètement ses enfants. Donc voilà, pire cauchemar. Et elle va arriver en courant à Paris. Il fallait lui trouver un avocat. Enfin voilà, et elle va se battre pour sa fille.
Et peut-être ça va les rapprocher. On verra. Qui sait ? Tu as eu la curiosité de vouloir lire le roman avant ou pas du tout justement toi ? Tu fais partie de ceux qui veulent pas lire du tout pour garder cette fraîcheur après.
Ben alors moi je fais partie de ceux qui ne lisent pas du tout, oui même au contraire pour pas être influencée. Et en même temps ma mère l'avait lu Ma mère adore les polars, les thrillers, et elle en lit beaucoup, beaucoup. Et donc, ce qui est important pour moi, c'est l'essence. C'est ce qu'elle en a gardé. Donc, je l'ai un peu, voilà, travaillé, bassiné en lui disant, alors, mais pourquoi, qu'est-ce qui te semblait important? Mais surtout, c'est la productrice, Iris, qui avait produit pour TF1 déjà Le Bazar de la Charité, qui est une grande productrice, qui travaille chez Quad, qui m'a beaucoup parlé du roman, puisque c'est elle qui avait pris les droits, et la raison pour laquelle elle voulait en faire une série. Et vraiment, c'est très 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 fort. Elle a su, peut-être parce qu'elle est allemande, la série joue justement sur ce sentiment de culpabilité qu'on a les mères, ou de peur par rapport à nos enfants. Donc c'est très angoissant. Et puis sur les jeunes filles aujourd'hui aussi, sur les violences faites aux filles, c'est-à-dire au fait qu'elles sortent le soir, voilà, c'est encore compliqué ce rapport aux filles, la différence entre une fille et un garçon, c'est que souvent les filles, pour pouvoir être plus, j'allais dire, sécures, donc elles doivent sacrifier pour la sécurité un peu de leur liberté et parfois rentrer plus tôt et s'habiller autrement, ce qui n'est pas juste du tout. Pourquoi ? Voilà.
Ouais, c'est encore un autre débat, ça, oui, ça c'est sûr. En tout cas, on va découvrir Une Mère Parfaite, 4 fois 52 minutes. On va pouvoir découvrir 2 fois 2 épisodes et puis plein de belles choses pour l'année qui s'annonce, je crois.
Oui. Plein de films, vous allez voir.
On découvre donc Une Mère Parfaite jeudi à 21h10 sur TF1 pour les 2 premiers épisodes. Merci beaucoup, Julie, d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup. Merci, Alain.
Ah, t'as pas complètement oublié ta petite maman, chérie ?
Maman, la police vient de parler.
C'est passé quoi ?
Il y a eu un mort. Il pense que c'est moi qui l'ai tué.
Si vous voulez vraiment l'aider, trouvez-lui un avocat.
J'ai besoin de ton aide. Je l'ai pas tué.
Il faut que tu me laisses faire.
Si c'était ton fils, tu laisserais faire. Je sais plus quoi penser, là. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Allez, on parle de la sortie du film Le Médecin Imaginaire avec Ahmed Hamidi qui sera notre invité dans une poignée de minutes. Alors surtout, ne bougez pas, à tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Notre coup de cœur ciné cette semaine est consacré au Médecin Imaginaire. Le film sort mercredi dans les salles. Le film de Ahmed Hamidi, qui est justement notre invité aujourd'hui. Bonjour Ahmed.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur une histoire de rencontre, d'amitié, de fraternité entre deux personnages que nous, on adore. Fadza Mouyamed, que vous avez certainement peut-être découvert dans le film La Vache, et puis Alban Ivanov. Une rencontre improbable grâce à ce film.
Oui, moi je suis fan des deux, bien évidemment. C'est pour ça que j'ai décidé de le prendre dans mon film. Ils m'ont fait l'honneur de me dire oui et de venir. On se connaît depuis très longtemps, tous les trois, en fait, parce que on a Jamel en commun, on a le Jamel Comedy Club. Mon parcours, il était d'abord à la télé, au Guignol, beaucoup à Canal, et du coup, j'ai rencontré Alban sur scène quand il faisait les impros sur Jamel. Il m'a toujours vraiment subjugué. Et Fadza, j'ai beaucoup travaillé avec lui sur les sketchs sur Jamel, sur le Marrakech du Rire. J'allais le voir au théâtre. J'ai toujours suivi de près. Et ils m'ont fait un immense honneur en acceptant de jouer dans mon film. Fadza, c'était beaucoup plus simple s'il l'a écrit avec moi. Mais c'était pour moi, c'était vraiment un vrai cadeau, les avoir tous les deux.
Ils ont fait une véritable partition tous les deux dans une comédie douce, j'aurais dit. On sourit, on rit, on se laisse porter par cette histoire, l'histoire de ce DJ qui, lors d'un concert au Maroc, ça tourne mal et il va se retrouver à rencontrer ce médecin imaginaire, mais cette personne qui souhaite devenir être soignant et qui va s'occuper de lui. Et puis voilà, ça va devenir, on espère en tout cas, une histoire d'amitié, c'est ce qu'on va voir. Et cette histoire de rencontre tout au long du film, tournée au Maroc en plus.
Tourner au Maroc, oui, parce que l'ensoleillement, parce qu'on vient de là. Et je voulais, à travers le film avec Fadza, on voulait parler, moi j'adore parler des non-héros. Et en fait, d'avoir un DJ interprété par Alban, un DJ international qui a dîné avec Rihanna la semaine d'avant, qui a 3 dates par nuit, une espèce de DJ comme on peut avoir chez David Guetta ou chez DJ Snake, qui loupe une marche, je leur souhaite pas bien évidemment, mais comment quand tu loupes une marche, parce que le monde va vite, comment quand tu loupes une marche, comment tu te répares? Avec qui? Et ces deux personnes qui ne devaient jamais se rencontrer, c'est un principe de comédie qui existe depuis la nuit des temps, mais il n'y a pas d'arbre dans le désert, il n'y a pas de raison qu'on en fasse pousser. On a repris ces thèmes de comédie, c'est-à-dire deux poissons hors de l'eau, deux personnes qui ne devaient jamais se rencontrer, et qui, quand tu les mets au contact, c'est un peu comme la peur ou le racisme, c'est souvent de la non-connaissance. Et à partir du moment où on organise une rencontre, les gens ont plein de choses à se dire et plein de choses à vivre. Et moi, je pense que le monde manque cruellement de ça. Et je crois que ça fait du bien de voir des gens qui se rencontrent, qui n'ont rien à faire les uns avec les autres, mais qui regardent dans le même sens. Ça peut paraître bateau, mais c'est bien de raconter des choses bateau parfois. Bateau, ça veut pas dire simple, ça veut pas dire simpliste. Et je pense que l'amitié, c'est simple, l'amour, c'est simple, donc il faut en parler simplement.
Et on a besoin en ce moment, cruellement justement, d'histoires saintes, d'histoires d'amitié, d'histoires de rencontres. On se laisse porter pendant une heure et demie comme ça au cinéma. Aujourd'hui, on a besoin de ça, clairement.
Ouais.
En plus.
C'est vrai, on a besoin de ça tous les jours. Moi, j'aime tous les cinémas, mais on a quand même beaucoup, beaucoup vécu derrière notre poste de télévision à regarder les chaînes d'infos en continu. Donc d'aller voir des films sur des faits divers ou des films qui nous transportent pas, c'est aussi pour ça que j'ai voulu tourner au Maroc, c'est-à-dire on est au milieu du désert, on est au milieu de rien, c'est sublime, il n'y a rien que ces deux mecs qui doivent se parler, se rencontrer, établir un contact et vivre des choses ensemble et des choses simples. Et je pense que j'ai essayé, en tout cas, de passer par la beauté de la rencontre d'une manière très, très distante. C'est beau de voir des gens s'aimer dans la rue, dans le métro, quand on voit deux jeunes s'embrasser, c'est cool. Quand on voit un couple de sexagénaires se tenir par la main, c'est beau. Et on ne doit pas se priver de belles choses. C'est amplement suffisant de voir des gens qui s'aiment. Et je pense que ce couple, Fadza et Alban, dans le film, s'aiment comme c'est de l'amour. Ça va au-delà même de. Il y a évidemment de la fraternité, il y a évidemment de l'amitié, mais ça peut presque toucher à l'amour. C'est-à-dire que je pense, sans être un grand matheux, qu'en amour, 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire il y a l'homme qui vit sa vie, la femme qui vit sa vie, et le couple forme une troisième identité, une troisième vie, donc 1 plus 1 égale 3. Et c'est ce que j'ai voulu faire à travers ce film, c'est-à-dire que Alban reste Alban, Fadza reste Fadza, et à eux deux ils construisent une troisième voie qui peut ressembler à l'amour dans un couple ou à l'amour en amitié.
Le Covid, franchement, tu as tourné juste avant, je crois. Hein. Tu dois avoir mais hyper hâte quand même que dans deux jours, enfin, il appartienne au public, depuis le temps que tu attends qu'il sorte ce film.
Ouais, c'était un long périple. Je suis pas le seul, mais effectivement, le film a 3 ans maintenant. Il a été tourné avant Covid, et bizarrement, le Covid est venu télescoper le film parce que on reste sur un DJ international qui va finalement être confiné au fin fond du Maroc.
C'est vrai, dans une sublime villa au départ.
Dans une sublime villa au départ, parce qu'on croit encore en lui, et puis dès qu'il perd des followers, parce qu'aujourd'hui, si on perd des followers, on n'est plus rien. Et je voulais montrer un peu, marquer cette espèce de course au pouce bleu, et cette course au YouTube et aux YouTubeurs. C'est une course qu'on ne gagnera jamais, parce que c'est une course sur le temps. Et donc, voilà, moi, on essaie d'avancer à notre allure. Je pense que c'est bien de temps en temps de ralentir la machine.
De prendre son temps.
Ouais, exactement. C'est un luxe. Je pense que le plus grand luxe dans la vie, c'est le temps. Il n'y a pas d'autre luxe. Il y a des belles montres, des belles voitures, mais ça, c'est du plaisir. C'est pas du bonheur. Et le temps, c'est du bonheur quand on sait l'utiliser.
Et là, vous allez vivre 1h30 de bonheur. Moi, je vous le dis, en allant voir Le Médecin Imaginaire qui sort mercredi au cinéma. Ahmed, merci d'avoir été avec nous. On va écouter la bande-annonce dans un instant. On termine par les projets. Est-ce qu'il y a déjà un peu la suite en préparation? Est-ce qu'il y a un nouveau film qui se prépare, vu qu'il y a 3 ans déjà que celui-là est tourné?
Écoute, Alain, je suis en train d'écrire un second film avec Gilles Lellouche, Audrey Diwan et Julien Lambroschini. Après avoir fait Le Grand Bain, on est parti sur une toute autre histoire, donc je suis en écriture. C'est très plaisant. Et dans cette période un peu trouble, j'ai aussi fait un documentaire assez touchant, toujours pareil, sur deux personnes dans un quartier. Ils ont 35 ans tous les deux. Ces deux amis, un qui est autiste et l'autre non. Donc c'est marrant parce qu'il y a presque un effet miroir sur le film. Comme quoi c'est peut-être une quête.
Et c'est un documentaire qu'on verra à la télé ?
Écoute, pour le moment, j'ai choisi avec mon producteur Hugo Sélignac de faire le documentaire, une fois de plus, pour ne pas se précipiter, ne pas le vendre avant de l'avoir fait. je préfère faire le documentaire, et quand on aura un bon documentaire, on ira le vendre. Je pense que c'est pas mal aussi de mettre les choses dans ce sens-là.
Exactement. En tout cas, le médecin imaginaire, c'est donc mercredi dans les salles. Merci infiniment, Ahmed, d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, Alain. À très vite.
À bientôt.
J'ai pu diagnostiquer une fracture du coccyx. Dans votre état, vous ne pouvez pas prendre l'avion. Abdelkader vous apportera assistance à domicile.
24 sur 24.
Matin, midi, minuit.
Chocolat. Ah, en fait, c'est du placebo ce que tu leur donnes.
Non, c'est du tic-tac.
C'est l'heure du bain.
Il y a des heures pour le bain.
C'est l'odeur qu'il dit l'heure du bain.
C'est pas ça.
Attends, regarde ce strabisme qui est là.
Hop là. T'as vu comme il strabe.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain, nous aurons la chance de recevoir toute l'équipe d'Andy Gang, la fiction événement qui sera diffusée le 2 mai sur TF1. Rendez-vous à ne pas manquer avec Alessandra Sublet qui sera notre invitée exceptionnelle, Stéphanie Pilonka et toute l'équipe du film qui sera avec nous. Nous aurons également le grand plaisir de parler du meurtre à Porquerolles avec Charlie Bruno qui sera notre invitée, ainsi que la réalisatrice, et puis plein d'autres surprises vous attendent évidemment dans Chute, on écoute la télé. Allez, n'oubliez pas, j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de la semaine avec La Quotidienne, du lundi au vendredi à 10h07, midi 17 et 16h07 sur Attitude. Retrouvez également cette émission en podcast dès 20h ce soir sur notre site internet onécoutelatélé.com. Elle sera également rediffusée demain soir à 19h. Et pour rester connecté avec nous, plusieurs solutions, notre application pour iPhone et Android, Chute on écoute la télé, nos pages Facebook et Instagram bien sûr. Et je vous retrouve aussi lundi prochain dès 13h. Pour la grande hebdo de Chute, on écoute la télé. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Attitude. Et je vous dis à demain pour La Quotidienne.
Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente.
Chute, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chute, on écoute la télé. Avec Vue d'ici. Volets battants, coulissants ou persiennes innovants. Fabriqués en Charente-Maritime. Vue d'ici. Le seul et unique volet en composite monobloc à isolation ultra performante et au veinage bois issu d'empreintes naturelles. Vue d'ici, le meilleur volet à tout point de vue.